France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir l'historien Gérard Noiriel, spécialiste de la classe ouvrière, du racisme, de l'immigration. On lui doit notamment une impressionnante histoire populaire de la France parue en 2018. Plus récemment, Gérard Noiriel a publié un livre qui vient tout juste de sortir en poche, Le venin dans la plume, consacré à Édouard Drumont et Éric Zemmour. Un ouvrage éclairant à l'heure où le polémiste prend de plus en plus de place dans le débat public et où il envisage de se lancer en politique. Emmanuel Macron, qui a inauguré un musée consacré à l'affaire Dreyfus cette semaine, a semblé lui répondre indirectement.
N'oubliez rien de ces combats passés, parce qu'ils vous le disent et vous répètent que le monde dans lequel nous vivons, que notre pays comme notre République, ne sont pas des acquis.
Nous irons au musée de l'affaire Dreyfus, installé juste à côté de la maison d'Émile Zola. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Fanny Cohen-Moreau, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec la question sociale qui semble reprendre le dessus à 6 mois de la présidentielle. On parlera aussi immigration avec cette grève de la faim pour les migrants à Calais. 19 jours déjà que 3 personnes, dont le père de Mester, ont cessé de s'alimenter pour qu'on arrête l'expulsion de leur camp de fortune.
Il faut bien arrêter les expulsions pour que les personnes exilées éventuellement puissent recevoir cette amélioration du dispositif. Sans cet arrêt, rien n'est possible.
À 19h, le journal d'Hélène Philly. À 19h20, au téléphone sonne, bientôt une loi sur la condition animale. On sera notamment avec le député Loïc Dombreval qui a porté ce texte. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, merci à Clémentine Ducasse pour la page web, ainsi qu'à ceux qui sont à la technique ce soir, Loïc Frapsos, Arnaud Caillé et Louis Audebert.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Gérard Noiriel.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Merci d'être là jusqu'à 19h. Alors on va parler de beaucoup de sujets différents jusqu'à 19h, mais on va commencer, si vous le voulez bien, par ce livre que vous avez publié en 2019 aux éditions La Découverte et qui vient donc de sortir en poche. Son titre, Le venin dans la plume, et ce sous-titre, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République. Quand vous l'avez écrit, Gérard Noiriel, Éric Zemmour était déjà omniprésent dans la sphère médiatique, mais il n'était pas encore question de lui dans le champ politique. D'ailleurs, vous ne sembliez pas y croire. Dites-nous pourquoi vous avez fait ce livre. Est-ce que c'était une façon de lui répondre parce qu'il s'en prend aux historiens ?
Oui, disons que je crois qu'il y a dans ce type de discours une dimension qui n'est pas assez peut-être souligné, c'est ce qu'on peut appeler l'anti-intellectualisme, qui est une dimension centrale du populisme. Donc, autant ce que Zemmour avait pu écrire avant sur l'immigration, je pensais pas qu'il était nécessaire de perdre son temps pour y répondre, puisque moi ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ces sujets-là, et donc ce qu'il raconte, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ça n'a aucune consistance sur le plan de la connaissance. Mais ce qui m'avait frappé, choqué même, je dirais, dans son livre de, je crois ça s'appelle « Suicide français » de 2018, c'est qu'effectivement, il s'en prenait aux enseignants-chercheurs, comme moi, mais aussi comme les sociologues, les démographes, en nous présentant comme une sorte de mafia qui serait au service du lobby immigrationniste, etc. Et je trouve ça très dangereux, parce que il y a beaucoup de gens, si vous voulez, surtout dans les milieux modestes, disons populaires, qui ne connaissent pas les différences, ils ne savent pas ce que c'est que notre métier. Et donc si on n'a pas la possibilité de répondre, d'expliquer en quoi ça consiste notre travail, eh bien ça peut diffuser dans l'opinion l'idée que oui, on est une mafia de privilégiés, etc. Donc ça me paraissait important d'insister là-dessus, d'autant plus que quand Zemmour a fait la campagne autour de son livre, il a été invité partout. Mais jamais on a invité des universitaires ou des enseignants pour venir lui apporter la critique.
Et dans ce livre, vous lui répondez très directement, y compris personnellement. Hein.
Oui.
Vous dites, il accuse les historiens d'un mépris de classe, vous réfutez l'argument, vous rappelez votre parcours. Il faut vraiment se mettre à son niveau pour lui répondre.
Si vous voulez, je crois qu'effectivement, on voit bien que si on reste uniquement à un niveau, j'allais dire intellectuel, ça a peu d'impact. On le voit bien avec la montée. Donc, je m'étais dit que dans ce livre-là, je donnerais aussi une dimension plus personnelle qui explique à la fois les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, mais aussi ma propre trajectoire, puisque lui-même souvent aime se présenter comme issu du peuple pour réfuter les élites, etc. Bon, ben moi je viens d'un milieu milieu plus populaire que le sien. Et donc, j'étais prêt, je le disais, je le dis dans le livre, c'est marrant. Vous êtes, je crois, la première à m'interroger là-dessus.
Mais en tout cas, c'est le début de votre livre, c'est
oui,
intéressant.
C'est ça,
vous,
voilà.
Vous rappelez vos origines
comme par hasard,
pour lui répondre.
Jamais, j'ai fait pas mal de choses sur tout ce bouquin-là, mais jamais on m'a interrogé là-dessus. C'est-à-dire, moi, je dis à Zemmour, bah, comparons. Puisque nous sommes une élite, nous sommes des privilégiés, comparons nos revenus, comparons notre patrimoine, comparons nos carnets d'adresses, etc.
Comparons le quartier d'où on vient.
Le quartier où on habite, hein, où on vient.
C'est ça,
je crois qu'il y a un certain nombre de gens, puisque on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans la rhétorique de Zemmour, il y a cette idée qu'il est, voilà, contre les élites, que voilà, c'est un dissident, un rebelle. Donc constamment, il y a cet argument-là. Et je pense qu'il faut aussi y répondre de cette manière. De même, quand on parle de l'école et de l'investissement qu'on a pu mettre quand on vient d'un milieu populaire, moi, je défends la raison, je défends la connaissance. C'est toutes ces notions-là qui sont bradées continuellement par Zemmour.
Alors, pour ce qui est de ces affirmations historiques, qui sont une de ces marques de fabrique, Gérard Noiriel, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une de ses interventions sur la chaîne CNews qui date du mois de janvier. C'est un extrait dans lequel il fait référence à des figures historiques pour justifier la remigration.
Vouloir la remigration, ce n'est pas être raciste. C'est considérer qu'il y a trop d'immigrés en France, que ça pose un vrai problème d'équilibre démographique et identitaire, que l'identité de la France est en danger, et donc c'est dire, voilà, on va renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas. C'est ce qu'a fait la France pendant un siècle.
Vous n'êtes pas raciste.
Mais c'est pas du tout être raciste que de dire ça. C'est le général de Gaulle n'était pas raciste. Léon Blum n'était pas raciste. Dans les années 30, on renvoie des immigrés italiens et polonais parce qu'ils sont au chômage et qu'on estime qu'ils s'assimilent pas.
Bon,
et c'est la gauche qui fait ça. Ce sont pas racistes. C'est Léon Blum. C'est des gens qui vous voyez, qui sont à gauche et qui sont tous à la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Ce n'est pas être raciste que ça.
Alors, que répond l'historien que vous êtes?
Enfin, si vous voulez, c'est vraiment à la fois faux historiquement et dangereux politiquement, parce que c'est une manière de dire il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche, et il y a un consensus là-dessus. Alors même que, enfin, pour Léon Blum, c'est faux. Il y a dans les années 30, une crise économique où la France, faut pas l'oublier, hein, pour se reconstruire, avait fait venir des millions de travailleurs immigrés. En 1930, la France est le pays du monde qui a le taux d'immigration le plus fort au monde. Donc, et donc, il y a au début des années 30, effectivement, une politique de renvoi extrêmement virulente par la droite de l'époque. Et quand le Front populaire, Léon Blum, arrive au pouvoir, c'est le contraire. C'est justement l'accueil notamment des réfugiés qui fuient le nazisme en Allemagne, et donc il y a toute une... Alors, les associations de droits de l'homme seront un peu déçues par le Front Populaire, parce que il y avait tout l'enjeu qui était de donner un statut aux immigrés, mais c'est le jour et la nuit avec ce qui se passait avant. Donc il y a toujours eu dans l'histoire des différences, c'est une des marques de fabrique quand même de la gauche, et il faut rappeler qu'historiquement, c'est ce que j'ai montré aussi dans mes travaux, la gauche est devenue, je dirais, hégémonique sur le plan politique quand elle a été capable d'associer la lutte pour le progrès social et la lutte pour les droits de l'homme. C'est ça la grande spécificité, j'allais dire, historique de la gauche. Et la crise de la gauche aujourd'hui, c'est parce que ce schéma politique-là n'est plus d'actualité.
Voilà, donc comme quoi il faut répondre en repartant des faits. Votre livre, Gérard Noyer, il repose sur une comparaison entre deux hommes, Éric Zemmour et Édouard Drumont, l'auteur de La France juive, publié en 1886. Vous comparez leurs écrits, leur parcours, il y a pas mal de similitudes, mais rappelez-nous, pour ceux qui ne sauraient pas, qui était Édouard Drumont ?
Édouard Drumont, donc, c'est un journaliste assez obscur au départ, mais qui va se faire un nom, une réputation, en se focalisant sur l'antisémitisme. Et donc, il va écrire un livre qu'on peut lire aujourd'hui, il est sur Gallica, donc les gens peuvent le regarder s'ils veulent, mais qui est un pamphlet de tissu d'horreur antisémite, qui au départ n'avait même pas trouvé d'éditeur, et qui va devenir un best-seller. Donc moi, ça fait déjà des années que j'avais travaillé là-dessus, et ce que j'ai montré, c'est que ça, c'est dans un contexte tout à fait spécifique, qui est le contexte en France des années 80, 1880, où il y a une crise économique importante. Il faut voir que ces populistes, ils prospèrent sur les crises aussi, hein, où il y a de l'angoisse collective, il y a du déclassement, voilà. Et en même temps, il y a une mutation fondamentale dans le champ de la communication, de l'information.
La presse.
La presse, c'est l'époque l'époque où le triomphe de la presse de masse. On a oublié un peu aujourd'hui, mais en une vingtaine d'années, le nombre de lecteurs des quotidiens passe de 1 à 10 millions. Ça veut dire désormais la presse écrite, elle se répand dans toutes les couches de la population.
Et vous faites le parallèle entre cette croissance de la presse, les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qui vous amène à comparer effectivement les deux hommes. Drumont, son ennemi, c'est le juif. Zemmour, vous dites, c'est le musulman. Certains vous ont reproché de faire le parallèle entre les deux,
Gérard
Marielle.
Là, il y a c'est pareil, si vous voulez, un débat qui, à mon sens, est à côté de la plaque. C'est-à-dire, je ne compare pas le sort des juifs à l'époque et le sort des musulmans aujourd'hui. Ce que je compare, c'est la rhétorique, ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre. Quels sont les arguments qu'un polémiste doit-il avancer pour convaincre un public? C'est ça le cœur de mon travail. Et évidemment, selon les contextes, on immobilise des arguments différents, les contextes varient. Mais ce que je dis, c'est que Drumont, pour moi, est le fondateur, c'est le premier qui, après, il y a toute une histoire, et donc, mais c'est le premier. Pourquoi est-ce le premier? C'est parce qu'il y a une mutation fondamentale dans l'histoire de France, qui est la Troisième République. C'est le début de la démocratie, les principes démocratiques sur lesquels on vit encore aujourd'hui, notamment la loi sur la liberté de la presse de 1881, 5 ans avant la France juive. Et donc, on a un contexte qui va permettre à des gens comme ça d'énoncer des arguments qui, auparavant, dans des régimes plus autoritaires, sous le Second Empire, n'auraient pas pu. Donc, on a une liberté de la presse. Et c'est ça la contradiction. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « La face sombre de la République ». Parce qu'ils sont toujours à la limite, vous voyez, de ce qui est légal, de ce qui n'est pas légal, etc. Et le drame que va être pour la Troisième République, sur ceux qui partageaient cet idéal des Lumières, où ils disaient si on développe la presse, eh bien on va développer les arguments, le débat, etc., c'est qu'on se rend compte que malheureusement, ça fonctionne pas uniquement avec des arguments rationnels. C'est ça que je montre. C'est que les gens comme Drumont à cette époque-là, et Zemmour aujourd'hui, ils mobilisent l'émotionnel. Et l'autre point fondamental, c'est l'État-nation. C'est le moment où il y a une intégration des classes populaires dans l'État-nation. Et c'est pour ça que je dis, moi, ce sont des nationalistes. Le mot nationaliste doit être utilisé. Drumont, c'est un nationaliste antisémite, et Zemmour, c'est un nationaliste raciste, si vous voulez, ou islamophobe, comme on veut. Mais ce sont des nationalistes. C'est le « nous » français, qui est « nous » français, eux les étrangers. C'est ça la structure de base. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire en sorte qu'un certain nombre de gens vont s'identifier en se disant, bah oui, nous, on est français.
Et puis ça pose aussi la question de l'usage de l'histoire dans le champ politique. Éric Zemmour, on le voit, se sert de l'histoire pour s'adresser à la France de 2021. Il se trouve que mardi, Emmanuel Macron s'est rendu à Médan, dans les Yvelines. Il est allé inaugurer le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus, musée installé dans un bâtiment qui jouxte la maison d'Émile Zola, qui vient d'être restauré. C'est un reportage d'Audrey Tison qui a suivi le chef de l'État lors de cette visite en compagnie des descendants de l'écrivain.
Une visite empreinte d'intimité grâce aux anecdotes racontées par l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Elle souligne l'humanité de son aïeul. Le moment de solennité ensuite, lorsque la délégation pénètre dans le bâtiment attenant, transformé en musée dédié à l'affaire Dreyfus, où résonne le célèbre texte de Zola.
La vérité, je le dirai, car j'ai promis de la dire. Je ne veux pas être complice. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam.
L'écrivain qui prend la défense du capitaine Dreyfus, juif, cible de toutes les critiques dans une période où l'antisémitisme avait libre cours. Les deux hommes ont été traînés dans la boue avant d'être finalement réhabilités. Emmanuel Macron salue leur mémoire.
Zola, c'est aussi une vie de combat pour lesquelles il a pris des risques fous, et en particulier l'affaire Dreyfus, qui est un combat éminemment républicain, consubstantiel à la République. Et donc, il y a résumé dans cette maison et dans ce musée, ce qui est inséparable entre ce qui fait la nation française et les combats pour la République française. Des idéaux, un amour de la langue et ce goût pour la vérité et la justice.
Et il adresse un message à la jeunesse. N'oubliez rien de ces combats passés. Ne les considérez pas comme des acquis. Le président ne prononce pas le mot antisémitisme ni le nom d'Éric Zemmour, qui a récemment assuré que l'innocence de Dreyfus n'était, je cite, pas évidente. Interrogé sur le sujet, voici ce que répond le grand rabbin de France qui était présent pour cette inauguration.
On a malheureusement le sentiment qu'on revit des époques où on va devoir se battre pour réaffirmer les valeurs de la République. Le combat des Dreyfusards, c'est le combat qui nous permet de vivre en République aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit à notre tour porter ce combat contre les mêmes qui voudraient fausser l'histoire, réécrire l'histoire, réinventer des faits. Et contre le mensonge, moi je dis exactement comme Zola, la vérité est en marche.
Haïm Korsia espère que le musée Dreyfus permettra de transmettre ce message aux plus jeunes et aux générations à venir.
Une réaction, Gérard Noriel ?
Oui, bah je trouve que c'est un fait salutaire. C'est un combat qui est effectivement toujours à recommencer parce qu'il y a des facteurs qui permettent de les remettre au goût du jour, en toujours adaptés à des situations précises. Mais il y a là, oui, pour moi une vérité, c'est-à-dire que le combat contre les discours de haine, il faut que se mobiliser. Et Zola reste un exemple de ce côté-là, oui.
Et faire de l'histoire pour rétablir la vérité
faire
historique.
Faire de l'histoire, mais justement de l'histoire qui soit de la véritable histoire, puisque ce que j'ai montré dans ce livre aussi, c'est que chez Zemmour, comme chez Drummond d'ailleurs, c'est ce que j'appelle mon histoire identitaire, c'est-à-dire ce sont des personnages, ce sont pas des individus réels, des personnages qui sont, voyez, comme ça présentés avec les victimes, les ennemis, et donc et on fait fantasmer les gens comme ça, et c'est pas une histoire tournée vers la connaissance des réalités.
Et vous listez toutes les obsessions d'Éric Zemmour, un rôle sur le lobby gay, les femmes ont pris trop de pouvoir, globalement c'était mieux avant, la France est en danger, c'est le grand remplacement. Oui, toute une logique, voilà.
Oui, c'est toute une logique. C'est vrai que je l'avais déjà pointé à ce moment-là, et toutes les critiques qui sont réactivées aujourd'hui, c'est ça qui est un peu désespérant, vous voyez, parce que on a été un certain nombre de sociologues, démographes, historiens à faire ces critiques des ouvrages de Zemmour, ça fait déjà pas mal d'années. Et malgré tout, on voit qu'il est devenu un personnage au centre de l'actualité, ce qui est quand même assez problématique. Et je rappelle aussi quand même que Drummond, au départ, personne ne voyait comme un horrible, dangereux d'extrême droite. Hein. Il y avait même des gens qui disaient « c'est un grand écrivain, c'est un homme de lettres », etc. Vous voyez, il y a, aujourd'hui, évidemment, on sait ce que ça a donné, tout ça, mais faut pas reproduire aujourd'hui le même genre d'erreur.
Voilà, et puis surtout savoir comment répondre à toutes ces affirmations, ce qui n'est pas évident, y compris pour nous les journalistes. On passe, comme tous les vendredis, Gérard Noiriel, à l'actualité de la semaine à présent, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Fred Milano. À la une, le coût de la vie, la présidentielle, l'hôpital à la peine, mais d'abord l'émotion d'une lauréate.
Eh bien, merci, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça compte. C'est très important pour moi. À ce point-là, en fait. Et pour ce livre.
Trop d'émotions pour Christine Angot à l'annonce du prix Médicis pour son livre Le voyage dans l'Est, récit de l'inceste dont elle a été victime. L'inceste, un fléau longtemps tabou dont le juge Édouard Durand rappelle l'étendue.
160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. 70% de classements sans suite, moins de 1000 condamnations par an, toutes violences sexuelles confondues.
Des enfants victimes, mais aussi des enfants bourreaux dans l'actualité cette semaine. À Kingersheim, près de Mulhouse, Dina, 14 ans, s'est donné la mort au début du mois. Dimanche, un rassemblement a eu lieu à sa mémoire.
Dina, c'est une personne magnifique et qu'il faut arrêter le harcèlement et tout ce genre de choses parce que ça détruit des vies, ça détruit des familles.
Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête pour harcèlement.
Tout le monde l'a traité de sale lesbienne, de sale arabe aussi.
Pendant 2 ans, on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête. Mais elles l'ont poursuivi jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux pour lui dire qu'elle était moche, qu'elle valait rien. Alors je vous en supplie, ceux qui ont des enfants, parlez-leur.
Légère remontée des cas de Covid. Heureusement, la pandémie reste sous contrôle, car à l'approche de l'hiver, il y a déjà la bronchiolite et une situation tendue dans les hôpitaux.
J'ai 30% de lits fermés, ce qui fait qu'aujourd'hui, je déprogramme des patients.
Le professeur Jean-Luc Jouve, chef de service à l'hôpital de la Timone à Marseille.
Il y a maintenant 2 ans, le collectif Interhôpitaux dont je fais partie était dans la rue pour dénoncer ces conditions-là.
Situation compliquée, reconnaît le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour qui le Covid n'a rien arrangé.
Après déjà 4 vagues de pandémie Covid, chacun peut comprendre qu'évidemment les tensions en ressources humaines puissent être vives à l'hôpital.
Il n'y a pas eu depuis le Covid de gestes forts. Maintenant les gens sont résignés, baissent les bras. Parfois même certains abandonnent leur profession médicale ou paramédicale.
Tout augmente, et sauf les salaires, donc à un moment on n'arrive plus à s'en sortir.
Là, on quitte l'hôpital pour un rond-point. L'annonce d'une prime inflation de 100 euros semble insuffisante pour ceux qui ont gardé leur gilet jaune.
Ça fait 8 euros par mois, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ?
C'est une mesure d'urgence.
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique.
Tous les pays européens font la même chose.
C'est une provocation.
Vous l'avez reconnue ? Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière.
C'est une provocation. Ce qu'il faut, c'est 300, 400, 500 euros de plus chaque mois.
Nathalie Arthaud, candidate pour la troisième fois. Arnaud Montebourg, lui, n'est jamais allé jusqu'au bout et pourtant...
Mes idées sont majoritaires. Madame Le Pen rêve de me mettre dans son gouvernement. Monsieur Mélenchon, il y a quelques années, voulait que je sois son Premier ministre. Monsieur Bertrand me trouve formidable. Et voilà que Madame Hidalgo rêve de m'embarquer.
Anne Hidalgo qui a relancé sa campagne cette semaine à Lille.
Je serai la candidate de la reconquête républicaine.
Donc cette fois, c'est la bonne.
Jusqu'au bout pour réinventer notre beau modèle français.
J'ai commencé la campagne il y a 6 semaines, j'étais à 0, je suis déjà à 4. Madame Hidalgo, elle était à 8, elle est tombée à 4. Donc dans 6 semaines, je serai à 8 et elle sera à 0.
C'est quand même pas compliqué les sondages de la présidentielle. Et encore un grand merci à Fred Milano. Une semaine en France avec l'historien Gérard Noiriel, spécialiste de l'histoire de l'immigration et des classes populaires. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ces... Allez. Ces quelques infos.
Bah, disons que effectivement, on voit bien que un enjeu majeur qui est aujourd'hui aussi la question sociale.
Elle est de retour
et faut pas oublier aussi que, et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'historiquement, il y a toujours eu ce clivage entre une droite et une extrême droite identitaire et une gauche et une extrême gauche sociale. Et c'est ce clivage-là qui était structurant. À l'époque de Drumont, c'était très net et aujourd'hui, quand on regarde le programme de Zemmour, on voit très bien que son discours identitaire s'accompagne sur le plan économique d'un libéralisme échevelé, je dirais. Il y a donc là, derrière, il y a des forces économiques très importantes qui préfèrent qu'on parle des questions identitaires plutôt que de rétablir l'impôt sur la fortune, etc., etc. Il y a donc une situation globale, je dirais, dans laquelle il faut replacer aussi le discours zemmourien.
C'est les Gilets jaunes qui ont... faire revenir à la une la question sociale avant la crise du Covid.
Oui, en partie, mais il y a pas, si vous voulez, il y a pas qu'en France. Vous avez vu, si on regarde un petit peu autour, on voit qu'en Allemagne, par exemple, social-démocratie a gagné les élections, en Norvège également, à Rome, c'est un maire de gauche qui a été élu. Bon, Biden, il a beaucoup de mal avec son grand plan keynésien, mais malgré tout, il y a une volonté aussi là de changer un petit peu, de lutter contre les inégalités sociales. Donc c'est un grand enjeu. Ça devrait avoir une place plus importante dans la campagne. Et je pense que ça va peut-être venir. Mais tant qu'on va discuter des moindres faits et gestes ou des moindres propos provocateurs de Zemmour, du coup, on déplace les enjeux.
Vous avez publié un livre sur les Gilets jaunes, Gérard Noiriel, les Gilets jaunes à la lumière de l'histoire. Que dire de la façon dont Emmanuel Macron y a répondu avec son grand débat national ?
Ben, si vous voulez, c'était la conclusion de mon ouvrage sur l'histoire populaire de la France. J'avais comparé à ce moment-là, en gros, ce que j'avais pu observer, moi, dans mes recherches sur les classes l'histoire populaire. Et puis, ce que Emmanuel Macron disait quand il était candidat encore, en 2017, sur son histoire de France. Parce que l'histoire était très présente. Elle est toujours très présente en France chez les politiques, hein. Et ça ne facilite pas forcément nos affaires. Et donc, on voyait bien que pour lui, à ce moment-là, il y avait que les élites qui comptaient, quoi. C'était une France, même dans son panthéon des hommes politiques, il n'y avait même pas Jaurès, il n'y avait même pas Blum, etc. Et ça lui est retombé dessus, j'allais dire. Vous savez, le premier de cordée, etc. Donc il a eu une image d'homme politique assez méprisant pour les classes populaires. Et il a essayé, et il essaye maintenant de s'en départir, je dirais, avec plus ou moins de succès. Donc voilà, il y a eu cette idée de grand débat à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Mais bon... Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Je crois qu'il suffit de poser la question aux gilets jaunes. Il n'y a pas eu beaucoup de résultats concrets.
D'autant que la crise du Covid a mis en lumière les premiers de corvée et que, à qui on avait promis beaucoup de choses.
Et on a entendu tout à l'heure dans votre reportage aussi ce qui est à l'hôpital, ce qu'il en était aujourd'hui. Oui.
Mais cette crise, elle a quand même mis en lumière le rôle de l'État.
Alors oui, alors ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement, à l'inverse du discours qui était encore celui de Emmanuel Macron candidat, qui était quand même très le libéralisme à tout craint, l'histoire nous réserve toujours des surprises, c'est ça qui est
On s'est un peu replié sur nos frontières avec cette crise.
Mais c'est parce que cette formidable épidémie que personne n'avait vraiment prévu, sauf quelques experts, mais qui nous avaient dit que ça nous arriverait un jour, mais ça a été un peu comme une guerre, voyez. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'on avait encore besoin de l'État et que l'État social, par le fait, devait reprendre l'initiative par rapport aux 30 années de réganisme qu'on avait eu auparavant. Donc on est aujourd'hui à la croisée des chemins, on voit un peu partout que des propositions qui visent à rétablir le rôle d'un État protecteur et luttant contre les inégalités.
La question de l'immigration est revenue à la une, évidemment, cette semaine. Gérard Noiriel, dans deux régions différentes où l'Église catholique est montée au créneau, à Briançon, d'une part, où des migrants ont été accueillis dans une église, faute de toit et de solution d'hébergement. Certains sont toujours dans cette église. À Calais, où ils sont encore des centaines à survivre également, en dormant sous des tentes de fortune qu'on leur confisque. C'est pour dénoncer cette situation que trois personnes sont en grève de la faim depuis 19 jours maintenant, à l'église Saint-Pierre de Calais. Elles ont pris la parole hier, alors que Didier Lesky, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été envoyé sur place cette semaine pour une médiation à la demande du gouvernement. C'est un reportage de Théo Baucher de France Bleu Nord.
Sur les marches de l'église, entourés d'une dizaine de membres d'associations qui les soutiennent, les trois grévistes apparaissent encore déterminés. Mais Ludovic Holbein ne cache pas leur état de fatigue.
Ça devient compliqué, très fatigant. Énergiquement, c'est aussi très difficile.
Très vite, c'est l'intransigeance et la colère qui prennent le dessus. Deux jours de discussion avec Didier Lesky, envoyé en médiateur, et aucune issue trouvée. Le directeur de l'OFI propose une autre réunion mardi prochain.
Il joue le jeu du temps, mais on n'est pas dans un jeu. Je joue pas à ma santé, je suis pas derrière un Monopoly, quoi. On va attendre quoi? On va attendre qu'on se retrouve dans quelle situation pour nous répondre?
Didier Lesky a proposé que les expulsions soient menées avec un préavis pour limiter les confiscations d'affaires personnelles des migrants, mais cela ne résout pas le problème pour le père Philippe de Mester, un des trois grévistes.
Il reste un fondamental, c'est-à-dire qu'il faut bien arrêter les expulsions pour que les personnes exilées éventuellement puissent recevoir cette amélioration du dispositif. Sans cet arrêt, rien n'est possible.
Eux proposent de profiter de la trêve hivernale qui commence lundi pour expérimenter une interruption des expulsions. Et ils voudraient une réponse du gouvernement puisque le médiateur ne peut pas prendre cette décision.
Voilà, 19 jours de grève de la faim. Gérard Noiriel, à partir de quand dans l'histoire la question de l'immigration apparaît sous le terme de problème ?
Mais justement, ce qui est assez frappant quand on regarde cette question-là sur la longue durée, c'est que le mot immigration se diffuse dans la langue française à la fin du 19e siècle. Au moment de la Troisième République, c'est vraiment un moment fondateur. C'est aussi le moment où il y a la grande loi sur la nationalité française de 1889, les premiers papiers d'identité pour les étrangers, etc. Le mot immigration en France est immédiatement associé à problème. C'est presque un réflexe, constamment. Alors même que l'économie française s'est toujours développée depuis cette période-là grâce à l'apport des immigrants. Donc on a des phases comme ça, avec des phases de développement économique où là on n'en parle pas d'ailleurs dans les médias. Quand on en a besoin, on n'en parle pas. Et c'est quand il y a, après, un retournement de conjoncture que là, la question de l'immigration est mise à la une de l'actualité.
Vous aimez rappeler dans vos livres l'histoire des vêpres marseillaises. Est-ce que vous pourriez nous rafraîchir la mémoire à ce sujet ?
Oui, pour moi, et pour d'autres, pour les collègues qui ont travaillé là-dessus, l'affaire des vêpres marseillaises, c'est un peu le début de tous ce qu'on appelle les problèmes d'immigration. En fait, ça se passe à Marseille, en 1881, quand vous avez les soldats français qui rentrent de Tunisie, après avoir écarté les Italiens pour le contrôle de la Tunisie, et ils sont fêtés, à Marseille, il y a une cérémonie, des petits drapeaux et tout, et puis à un moment donné, on entend des sifflets qui viennent des Italiens. des immigrés italiens qui étaient déjà nombreux à cette époque-là. Et donc, il y a une chasse à l'italien qui va durer une semaine et qui fera 3 morts. Et ça va être le début, je dirais, de tout ce discours qui est très, très, qui n'a pratiquement pas varié. Hein. Ce qui a varié, c'est les nationalités ou les groupes qui sont mis en cause. Mais sur le fond, sur l'envahissement, sur le fait qu'ils prennent le travail des Français, qu'ils s'assimilent pas, etc., etc., on rencontre à partir de ce moment-là toujours les mêmes rengaines, j'allais dire.
C'est toujours la même histoire. J'aimerais qu'on dise, Gérard Noriel, un mot de votre dernier livre qui est paru au printemps dernier, Race et sciences sociales, essai sur les usages publics d'une catégorie. C'est un livre que vous avez écrit avec Stéphane Beau aux éditions Agone. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui a créé beaucoup de polémiques. Il faut dire que dans ce livre, vous vous en êtes pris à pas mal de gens, y compris à des gens avec lesquels vous avez travaillé, puisque vous aviez quand même écrit un ouvrage collectif avec les frères Fassin. Dans cet essai, vous en prenez à eux, vous en prenez aussi à un certain nombre de chercheurs, de l'INED, à des historiens, Pascal Blanchard, Pape Ndiaye. Pourquoi, à votre avis, il y a eu autant de réactions? C'est parce qu'en gros, vous leur avez reproché quoi? De verser dans l'identitaire, mais de
alors,
l'autre côté, c'est ça?
J'aime pas trop le mot « s'en prendra », vous voyez, parce que ça peut donner l'impression aux gens.
Vous n'êtes pas tendre avec eux dans ce livre.
Non, mais je fais une analyse, je fais un débat, une discussion. Il faut aussi admettre que dans notre milieu, comme dans tous les milieux savants, vous avez des désaccords. Alors, si c'est en physique, ça ne donnera pas lieu à une grande polémique à France Inter ou dans l'actualité. Mais quand ça concerne des questions de société, là, évidemment, il y a des enjeux. Mais moi, je plaide dans ce livre. Alors, je ne veux pas parler au nom de mon collègue Stéphane Beau, lui il est sociologue, moi je suis historien, moi je plaide sur une question que j'avais déjà abordée dans de nombreux ouvrages auparavant, c'est la question de notre responsabilité, je dirais, dans la construction des catégories, dans la définition des identités, etc. Donc c'est un débat qui tourne autour de ces questions-là.
Vous avez toujours considéré que les rapports de classe prédominaient et vous leur reprochez un petit peu de mettre trop en avant le genre et la race, c'est ça?
D'une part, là il nous faudrait vraiment beaucoup de temps pour détailler tout ça, mais d'une part, c'est la question effectivement de ce concept de race. Qu'est-ce qu'on entend par là? A-t-on le droit d'utiliser un terme publiquement quand il n'est pas catégorisé par le droit, comme c'est le cas en France? Enfin, ce sont des questions dans lesquelles je ne tranche pas, mais je pense qu'il y a toute une série de discussions qui n'ont pas eu lieu là-dessus et on a beaucoup de mal à les poser. Et alors c'est vrai que du coup, on voit des polémiques dans l'espace public où les gens s'insultent les uns les autres à partir de ces questions-là où les arguments se sont renvoyés, etc., sans qu'il y ait d'espace autonome pour pouvoir avoir des discussions.
Ils se sont peut-être sentis attaqués aussi dans leurs travaux sur liés aux origines, au genre, à tout ce qu'on appelle aussi l'intersectionnalité. Pourtant, c'est une réalité. Les sciences sociales, elles évoluent.
Les sciences sociales évoluent, mais je veux dire, la question de l'intersectionnalité, moi, simplement, ce que j'ai dit, c'est que c'est un mot nouveau pour nommer des choses très anciennes. Vous pouvez pas faire des sciences sociales sans croiser les variables. C'est donc, si vous voulez...
En fait, vous êtes d'accord?
Ben oui, c'est ce que j'ai dit simplement. Là où il faut nuancer, c'est que on ne peut pas uniquement considérer 3 variables. Moi, j'ai fait un livre. Alors, quand on m'accuse de nier ces histoires de race, etc., c'est absurde. J'ai écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a même donné lieu à un film qui s'appelle Chocolat, la véritable histoire d'un homme sans nom.
C'est
l'histoire d'un esclave, donc qui a été appelé Chocolat à cause de sa couleur de peau. Mais je montre dans la biographie que j'ai faite que faut faire intervenir bien plus de critères que ces 3 qui sont aujourd'hui un peu canonisés, parce qu'on retombe sinon dans des formes de réification de l'identité des personnes. Voyez ?
On laissera les intéressés vous répondre effectivement dans un autre débat, parce que ce serait beaucoup trop long. Gérard Noiriel, dans un instant, on va faire un peu d'ego l'histoire.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer des caniches, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Et je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous souhaitez une bonne. La recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons, dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Chatterton, Compagnon, un titre choisi par Djoubaka.
France Inter. Une semaine en France.
Toujours en compagnie de l'historien Gérard Noiriel. Alors, ce qui est pratique avec vous, Gérard Noiriel, quand on veut aborder votre parcours, c'est que vous le racontez volontiers, ce parcours, votre histoire, y compris donc dans ce livre Réponse à Éric Zemmour. Vous insistez donc sur le fait que Noiriel, eh ben, c'est un vieux patronyme lorrain, attesté dès l'Ancien Régime. Et toc, vous racontez, vos parents viennent de villages proches du lieu de naissance de Jeanne d'Arc, Maurice Barrès, Jules Ferry, la Lorraine, les Vosges. Vous êtes né en 1950 à Nancy, vous avez passé votre enfance dans les Vosges et puis un petit peu en Alsace aussi, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore dit grand-chose. Je suis en train de préparer là
votre autobiographie,
une
c'est
autobiographie, puisque je le fais avec ma sœur. Donc, on analyse nos trajectoires croisées, donc qui sont effectivement... Et d'ailleurs, on va retrouver toute une série de questions qu'on a abordées tout à l'heure, puisque effectivement, c'est pas pour rien que je m'intéresse à l'immigration, aux questions identitaires, etc. Je les ai croisées aussi dans ma propre expérience personnelle, et donc c'est... Voilà, c'est mes
expériences personnelles. Vous n'êtes pas immigré, vous?
Ben, je suis un immigré de l'intérieur, si on veut dire, et puis j'ai
de l'intérieur en Alsace, c'est ça.
Voilà, en n'étant pas alsacien, en ayant immigré en Alsace, ça a été effectivement une expérience très très forte pour moi, qui se combinait avec d'autres aspects de milieu social, etc. Enfin, je ne vais pas dévoiler le contenu du livre, mais effectivement, voilà, il y a eu toute une série de facteurs qui expliquent mon itinéraire et la manière dont je vois aussi l'histoire et le monde social aujourd'hui.
Vous dites que vous allez écrire avec votre sœur, alors... Moi, j'ai noté que vous êtes l'aîné d'une famille de 8 enfants, famille modeste, déclassée. C'est vous qui le dites.
Oui. Oui, eh ben, disons que c'est le grand drame de notre famille, c'est-à-dire que donc j'avais une grand-mère qui était institutrice, un grand-père qui était militaire, et un père déclassé. C'est aussi lié à la Deuxième Guerre mondiale, enfin il y a toute cette dimension-là de la collaboration avec Vichy, enfin
on
a
l'histoire
traversé tout ça
pied.
dans l'histoire, et donc mon père a sombré dans l'alcoolisme, et donc c'est aussi le problème de la violence faite aux femmes, de la violence faite aux enfants, on a connu tout ça.
Toujours donc, est-il voilà. que vous, après le CM2, vous avez été orienté au collège filière courte. Oui. Vous avez passé le concours de l'école normale d'instituteur. Vous, c'est ça. L'ascenseur social a fonctionné, Gérard Noiriel, on peut dire ça. Il y a eu la fac à Nancy. Et puis, vous avez été nommé prof à Longwy, à l'époque de Radio Cœur d'Acier, une radio à laquelle vous avez, ben, avec laquelle vous avez fait des émissions.
C'est parti.
Ici Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h. Première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ses émissions, écoutez-la et faites-la écouter.
Souvenir, souvenir.
Ah bah oui, alors ça pour moi ça a été un tournant aussi dans ma vie hein, parce que j'ai fait ma thèse hein, sur l'histoire de cette classe ouvrière qui était en lutte pour sa survie et je faisais ces émissions d'histoire avec donc Marcel Tria qu'on vient d'entendre qui est décédé malheureusement il y a quelques mois et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré donc aussi Benasser Azaoui qui était donc un militant de la CGT d'origine marocaine
avec qui vous avez écrit Vivre et travailler à Longwy
avec qui on a écrit avec lequel j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle oui Vivre lutter à Longwy, qui est une analyse critique du rôle du Parti communiste dans la lutte, qui m'a valu d'être écarté.
De ne pas vous faire que des amis à cette époque-là
voilà. déjà. Donc j'ai déjà vécu à ce moment-là des choses assez douloureuses. Quand vous êtes considéré comme un traître par rapport à votre cause que vous défendez, c'est assez douloureux, oui.
Alors il y aura beaucoup de choses hein, dans votre autobiographie, ça, Gérard Noiriel, avec tout ça. Oui. Vous dites que votre mère vous a enseigné la dignité face au mépris de classe. Vous dites aussi j'ai réglé mon problème de culpabilité en continuant à vivre dans la ZUP de la banlieue parisienne où je suis arrivé au début des années 80.
Oui, c'est ça. C'est un problème, je dirais, qui pour moi était important. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que l'action politique, ça devait être passé par la pratique, pas uniquement par le discours. Et j'ai trop vu autour de moi des gens qui étaient des grands défenseurs des droits de l'homme, etc., mais qui, dès qu'ils pouvaient, allaient vivre dans les beaux quartiers de Paris. Mais je dis aussi que ça pose un problème. C'est qu'effectivement, en tant que père de famille, on se dit, est-ce que les enfants, leur destin, je suis pas en train de les hypothéquer en les laissant dans ce collège, lycée de banlieue. Et je peux rassurer les gens, hein, mes enfants ont très bien réussi. Donc il y a voilà. Alors je veux pas non plus exagérer. Il y a banlieue et banlieue. Il y a des voilà. Mais là où j'étais, c'était une banlieue. Et je tiens aussi à souligner le rôle extraordinaire que peuvent jouer les élus locaux, les enseignants, les éducateurs sportifs, tous ceux qui les mercredis, jeudis sont avec les enfants, etc. Le tissu social en France, il est aussi à ce niveau-là, on n'en parle pas assez. On voit ces vedettes tous les jours à la télé, mais on ne parle jamais de ces gens-là. Et c'est grâce à eux aussi que notre société aujourd'hui continue à fonctionner.
Importance du milieu associatif aussi. Et vous avez monté une association d'AJA. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. En deux mots, c'est...
En deux mots, oui, c'est l'éducation populaire. J'ai toujours tenu à faire de l'éducation populaire et on a créé cette association il y a 12 ans avec Martine Derrier, donc, qui est aussi comédienne, et on fait des conférences gesticulées et théâtralisées. On va dans les écoles, donc je dis aux enseignants, vous pouvez nous solliciter pour qu'on aille aussi diffuser des spectacles qui mettent en forme, je dirais, des travaux, notamment les miens, sur ces questions
civiques.
Qu'est-ce
que vous racontez ? C'est de l'histoire ?
Oui, ben on en a une, par exemple, qui s'appelle Nos ancêtres, les migrants, où on raconte sous une forme ludique qu'on est tous descendants des migrants. On en a une sur les discours de haine. Vous voyez aussi, on explique voilà tout ce qu'on a pu dire aussi tout à l'heure sur à la fois l'histoire et les réalités actuelles, en montrant aussi que les discours de haine, on peut les trouver dans tous les milieux. Hein, c'est pas uniquement réservé à tel ou tel groupuscule. Donc, on travaille aussi beaucoup sur la question des réseaux sociaux, sur les contradictions, sur le côté pernicieux qu'il peut y avoir aujourd'hui en se retranchant derrière son ordinateur pour balancer des insultes, etc. Donc, c'est tout ça, pour moi, c'est extrêmement important d'aller travailler. Vous voyez, à ce niveau-là, avec des jeunes, pour leur donner envie aussi peut-être de l'espoir un jour qu'ils puissent s'en sortir, comme ça a été mon cas, je dirais, par la connaissance, par la culture, par le travail aussi sérieux à l'école.
Bon. On va dire que vous êtes un historien hors les murs. Hein. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Je rappelle donc les derniers ouvrages, Le Venin dans la Plume aux éditions La Découverte et Race et Sciences Sociales aux éditions Agone. Un très grand merci d'être venu ce soir sur France Inter.